Sans surprise, bien évidemment, il va être question de ce plan de Donald Trump, un plan pour la paix en 20 points. On y revient, enfin Jonathan Serrero y revient avec Isaac Franco, c'est l'entretien du 18h, donc ça date d'hier soir, vous l'aurez compris. Isaac Franco qui analyse ce plan en 20 points, au micro donc de Jonathan Serrero.
Isaac Franco, bonjour.
Bonsoir, merci pour l'invitation.
Alors, malgré l'optimisme qui règne aux États-Unis, mais aussi en Israël, c'est le flou qui prédomine autour de ce plan soumis par Donald Trump. Il y a énormément d'informations qui fusent depuis sa publication ce week-end. Et on le sait, lorsqu'il y a beaucoup de bruit autour d'un deal, ce n'est jamais bon signe. J'aimerais avoir votre sentiment sur ce point-là.
C'est très difficile de se prononcer sur quelque chose qui est en cours. Je veux dire, on en saura plus, on sera plus intelligent à 19h15 lorsqu'il y aura cette conférence de presse conjointe, qui est déjà un bon signe. Le fait qu'il y aura une conférence de presse, les rumeurs laissaient entendre qu'on avait beaucoup travaillé entre les États-Unis et Israël par l'intermédiaire de Ron Dermer et du Premier ministre lui-même avec les équipes de négociation américaines, qu'on avait beaucoup progressé sur le plan de 21 points. Maintenant, il y a eu cette discussion entre les Américains et l'émir du Qatar qui laisse entendre que peut-être le Qatar ferait une pression beaucoup plus forte sur le Hamas pour qu'il l'accepte, parce que si l'on en croit la dernière déclaration du Hamas, qui n'aurait reçu aucune proposition concrète. Vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on se dit être tout proche d'un accord, de quelque chose qui mettrait un terme à la guerre, à la libération des otages, et puis nombreuses fois nous en avons été pour nos frais et déçus de ne pas voir tous ces accords annoncés se matérialiser. Donc je serai extrêmement prudent pour l'instant. En tout cas, Levitt, la porte-parole de la Maison-Blanche, avait clairement laissé entendre dans une déclaration en début de journée que les deux parties devraient faire des concessions douloureuses et que chacun quittera la table plus ou moins mécontent. Il faudra voir dans quelle mesure Israël se lèvera de la table, dans quelle mesure du mécontentement Israël se lèvera de la table. Qu'est-ce que Israël aura dû concéder pour signer ce plan en 21 points.
Alors, Isaac, qu'est-ce qui aurait changé par rapport il y a de cela quelques semaines? Est-ce que l'attaque menée par Israël au Qatar a quelque peu rabattu les cartes en faveur de la signature d'un accord maintenant?
C'est possible. Personnellement, je ne le pense pas. Je ne pense pas que c'est ça qui aura fait changer les choses. Je pense que ce sont les multiples déclarations de Trump qui disaient à Netanyahou d'en finir et d'en finir rapidement parce que la pression de la communauté internationale ou la prétendue communauté internationale se faisait de plus en plus forte, et ça s'est matérialisé d'ailleurs à l'Assemblée générale des Nations Unies la semaine dernière, où il y a eu cette flopée de reconnaissance d'un État palestinien. Donc la pression est de plus en plus forte, les États-Unis sont isolés, il y a des possibilités de rafraîchissement des relations entre les États-Unis et les monarchies du Golfe pour le soutien inconditionnel apporté par l'Amérique à Israël. Et les Israéliens n'avancent pas assez vite dans cette éradication du Hamas. Et donc peut-être le président américain a-t-il estimé que cette campagne militaire ne fécondait pas les résultats espérés et dans le temps espéré. Disons que, vous savez, le facteur temps, le paramètre temps en politique est un paramètre fondamental. Et peut-être que le président américain a estimé que le temps accordé au Premier ministre était suffisant et qu'il fallait passer à autre chose.
C'est la question qui se pose. Est-ce que les intérêts américains et les intérêts israéliens se rejoignent au niveau du timing? On le sait, en Israël, il y a tout un débat autour de la souveraineté israélienne en Judée-Samarie. Benjamin Netanyahou pourrait prendre un risque politique, même si il y a de cela quelques minutes, le budget a été voté. mais il y aurait un risque politique pour Benjamin Netanyahou.
Il y aurait un risque politique considérable. D'ailleurs, il l'a fait entendre au Conseil de Judée ou au Conseil de Samarie, je ne sais plus très bien. Il a fait entendre que l'annexion, et c'est un terme très très impropre d'utiliser le mot annexion à propos de la Judée-Samarie, que l'annexion ne serait peut-être pas pour maintenant. Donc il a déjà clairement fait entendre que cette initiative, elle serait reportée sine die, un peu comme il y a 5 ans pour la signature des accords Abraham, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, avaient clairement fait entendre aux Israéliens que c'était une ligne rouge qui, s'ils la franchissaient, eh bien, mettait en danger la signature de ces accords. On est un peu dans le même scénario aujourd'hui. Les monarchies du Golfe font clairement entendre aux Américains que cet héritage politique, qui est probablement une des choses les plus importantes à mettre au crédit du président américain, serait en danger, serait questionné, serait fragilisé si Israël annexait toute ou partie de la Judée-Samarie. Donc il semble que ce sera reporté et qu'il faudra pour Israël voir dans quelle mesure il pourra punir ces États, je pense en particulier aux États occidentaux, donc la France, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie, dans quelle mesure il pourra les punir sans recourir à cette annexion d'une partie ou de la totalité de la Judée-Samarie. Mais effectivement, quand vous êtes un pays aussi petit, avec une masse critique aussi petite, c'est 10 millions d'habitants, et que vous faites... vous mesurez à une détestation aussi planétaire, à une année de cristal pratiquement, parce que ce sont des condamnations réservées à l'État d'Israël par pratiquement la planète entière, à l'exception des États-Unis. C'est difficile d'imaginer prendre une décision politique qui vous fâche avec le seul allié qui vous reste, et l'allié est certainement le plus important. On connaît en plus la nature particulière de Donald Trump. C'est un homme qui n'aime pas être qu'il vaut mieux ne pas fâcher, qu'il vaut mieux ne pas se mettre à dos. Et donc une décision politique israélienne qui fâcherait l'administration américaine isolerait encore un peu plus Israël dans une logique de plus en plus insoutenable, de plus en plus difficile à supporter pour l'État juif.
Alors, dernière question, Isaac, dans ce dossier, pensez-vous que le Qatar et l'ensemble des pays arabes parviendront à convaincre le Hamas de rendre les armes et de libérer l'ensemble des otages? Il y a certaines informations qui disent que le Qatar en a assez du Hamas et aimerait s'en débarrasser, et qu'en ce sens, les chances de parvenir à un accord seraient plus grandes.
Écoutez, personnellement, j'ai des doutes, et c'est pour ça que j'attends d'entendre la voix d'un représentant du Hamas qui dit ne pas avoir reçu de proposition concrète à ce jour ou à cette heure. Mais j'ai du mal à imaginer que le Hamas se débarrasse du levier le plus important qu'il possède, c'est-à-dire les 48 otages. J'ai du mal à imaginer que dans les 48 heures de la signature de l'accord du plan Trump de 21 points, eh bien 48 heures après, les 48 otages seraient relaxés. J'ai du mal à le penser. Quant à imaginer que le Hamas accepte de bon gré de se désarmer, de déposer les armes, et pour ses principaux responsables d'accepter le chemin de l'exil, j'ai beaucoup de mal à l'imaginer aussi. Et donc je pense que tout cela est frappé du coin du wishful thinking. C'est un peu ce que je crains. C'est une énième tentative qui prend ses désirs pour des réalités. Penser que le Hamas va accepter de déposer les armes sans y être contraint militairement, bien, ça me paraît une utopie. Imaginez que le Hamas accepte, malgré la pression du Qatar, si celle-ci existait de manière plus forte qu'elle n'a existé jusqu'à présent, j'ai du mal à imaginer que le Hamas accepte de se débarrasser, d'élargir les 48, les 20 otages encore vivants et les 28 corps. J'ai du mal à l'imaginer. Mais bon, on verra 19h15 ce qui sera dit de cette réunion, de cette rencontre, cette quatrième rencontre entre le Premier ministre israélien et le président américain. Et à ce moment-là, on y verra peut-être un peu plus clair.
Isaac Franco, je vous remercie.
Ah, pas facile cet exercice de projection à une heure avant une conférence de presse. Je vous rappelle le titre majeur de ce mardi 30 septembre. Israël a accepté l'accord en 20 points. Il ne reste plus qu'au Hamas de contresigner entre guillemets cet accord, d'accepter cet accord et les otages pourraient revoir leur famille et la terre d'Israël dès 72 heures maximum après la conclusion de l'accord.